En coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Je vais vous parler de choses qui sont peut-être un peu plus contemporaines, puisque je vais vous présenter les résultats de travaux que nous menons avec Gilles Trehel depuis quelques années sur les conséquences actuelles de l'engagement dans les conflits contemporains, conséquences en termes de stress post-traumatique. Donc je vais vous présenter les résultats d'un certain nombre de travaux qu'on a menés, notamment grâce au soutien, il faut que je le rende hommage, soutien de l'Union fédérale des associations d'anciens combattants, des associations de prisonniers de guerre, combattants d'Algérie, Tunisie, Maroc, de l'Isère et du Rhône, et puis pour la partie portugaise de ces travaux, donc tout a été fait en partenariat avec l'équipe du professeur Mendes du Centre d'études du traumatisme de l'Université de Coimbra. Alors, pour introduire un petit peu mon exposé, donc pour situer la question du stress post-traumatique, on a vu, hein, notamment avec l'exposé de Gilles Trehel, hein, qu'on est sur... la question du stress post-traumatique est quelque chose qui est étudié depuis relativement longtemps dans tout ce qui est l'histoire de la psychologie, de la psychiatrie, je dirais, qui est une histoire malgré tout récente. Ma manière d'aborder les choses, elle correspond à une nosographie qui est une nosographie beaucoup plus récente, qui est celle du manuel diagnostique de l'Association américaine de psychiatrie et qui a été introduite à la suite vraiment du lobbying des anciens combattants de la guerre du Vietnam, qui a été introduite donc dans ce manuel diagnostique de l'Association américaine de psychiatrie en 1980. En France, on voit que la reconnaissance, en tout cas du psychotraumatisme en tant que blessure de guerre, est plus récente encore. Voilà, donc on est sur des conceptions, en tout cas une des représentations des nosographies qui restent des nosographies récentes, qui du coup sont des classifications de symptômes, qui sont des classifications de symptômes qui ne sont pas complètement stables. Puisque en 2013, donc, on a la dernière version du manuel diagnostique du DSM. Donc pour vous présenter le type de symptômes que nous étudions, cette dernière nosographie, conçoit donc le psychotraumatisme comme étant l'association, bah, évidemment, d'une exposition à au moins un événement traumatique, d'un certain nombre de réviviscences, hein, typiquement les cauchemars, les flashbacks, ce genre de choses, mais également donc un syndrome d'évitement, donc de comportement, d'attitude aussi, de processus intellectuel, de mise à distance de tout ce qui va pouvoir rappeler l'événement traumatique, mais également, donc ça c'est un peu plus récent, donc une altération négative des cognitions de l'humeur, hein, ça a été rappelé, hein, tout à l'heure, il y a une intrication très souvent entre justement une humeur dépressive, une baisse de la sensibilité émotionnelle, on l'a vu aussi avec les soldats de la guerre 14-18. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui a été, je dirais, mis en évidence en 2013. Et puis enfin un certain nombre de symptômes qui sont des symptômes beaucoup plus physiologiques en quelque sorte, des réactions de sursaut, une sensibilité plus proche d'un stress physique. Voilà, et tout ça entraînant donc des conséquences notables sur le fonctionnement de l'individu. Donc, ça c'est pour vous présenter donc le cadre théorique, qui est le cadre de ces travaux de recherche. Donc, nous, on a utilisé donc la nosographie précédente, celle du DSM-4, mais qui finalement varie relativement, on n'a pas des variations aussi importantes que ça. Alors, donc je vais vous présenter donc des travaux qui s'intéressent à l'évolution donc à très long terme, hein, de ces symptômes de stress post-traumatique. Donc on est vraiment dans une perspective longitudinale à très long terme. Si on prend quand même ce qu'on sait sur le stress post-traumatique, on considère donc c'est une pathologie qui évolue, qui débute plutôt donc dans les 6 mois qui suivent la confrontation à l'événement. Il y a un certain nombre de travaux qui ont rapporté l'existence de survenues différées, et parfois à très long terme. Alors malgré tout, il n'y a pas de consensus sur ces psychotraumatismes différés, donc avec une survenue uniquement tardive. Parfois, il y a des études de cas qui rapportent donc des survenues comme ça, plusieurs dizaines d'années après les événements. Malgré tout, il n'y a pas de consensus. On n'est pas tout à fait certain qu'il ne s'agisse pas de stress post-traumatique chronique, mais qui était soit masqué, soit pas identifié. Donc notre question, on est malgré tout donc dans ce cadre théorique, qui est celui des stress post-traumatiques chroniques et ou différés. Qu'est-ce qui se passe au cours de la vie des anciens combattants qui fait que, finalement, très tardivement, il y a des symptômes qui peuvent soit apparaître ou en tout cas être particulièrement manifestes. Et donc nos questions, c'est finalement quels sont, si on prend les choses d'un point de vue assez positif, quels sont les facteurs de résilience, quels sont les facteurs d'adaptation, quels sont les processus qui ont permis à ces individus de faire face finalement à ces souvenirs traumatiques, et puis inversement, quelles sont les fragilités, quelles sont les vulnérabilités, notamment liées au vieillissement, qui vont faire que cette symptomatologie peut être, dans certains cas, particulièrement manifeste. Il existe une littérature sur la récurrence à long terme du stress post-traumatique. Ça a été donc décrit pour tout un tas d'anciens combattants de conflits du XXe siècle, avec des anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale, de la guerre de Corée par exemple, de la guerre du Vietnam, mais on l'a aussi avec des travaux de recherche qui concernent des anciens combattants israéliens de la première guerre du Liban, ou encore même des travaux qui concernent des anciens combattants iraniens de la guerre Iran-Irak. Donc il y a une littérature relativement importante qui commence à prendre de l'ampleur, je dirais. Et si on essaye de tirer des grandes lignes, des facteurs qui vont influencer donc ces effets à long terme, on observe qu'il y a des processus intellectuels, des processus psychiques qui semblent être des processus déterminants. Le premier, c'est ça rejoint un des types de symptômes, de signes cliniques du stress post-traumatique, c'est ce qu'on appelle donc l'évitement, le syndrome d'évitement, donc l'évitement cognitif, c'est-à-dire l'évitement des pensées, tout ce qui va des pensées liées à l'événement traumatique, et l'évitement comportemental, c'est-à-dire la mise à distance de toutes les situations qui vont pouvoir rappeler la situation traumatique. Donc, ces comportements d'évitement, dans la mesure où ils interviennent de façon durable, constituent vraiment un facteur de risque à long terme d'un état de stress post-traumatique chronique. Parallèlement à ça, donc, ce qui a été observé, c'est que ce qu'on appelle dans notre jargon donc, des croyances métacognitives, c'est-à-dire vraiment les croyances sur la manière supposée dont fonctionnent les processus psychiques, ces croyances intellectuelles ont aussi un rôle. C'est-à-dire, typiquement, ce qui a été observé, c'est que ce qu'on appelle le blâme de soi, vraiment des manifestations d'autocritique, le fait de s'attribuer la responsabilité de la souffrance psychique est quelque chose qui est extrêmement délétère. Tout ce qui est de l'ordre aussi de la crainte, de la peur, de la survenue récurrente des symptômes, on pense bien que la crainte des cauchemars est quelque chose qui est extrêmement pénible, là, sur des temps très longs, je parle de personnes qui ont des souffrances plusieurs dizaines d'années. Donc on a une littérature qui commence à émerger, malgré tout c'est l'extrêmement importante littérature qui s'intéresse au stress post-traumatique, on reste sur des travaux, sur des considérations qui sont malgré tout limitées. Donc on a des tendances comme ça, des suppositions, mais qui ne sont pas encore, je dirais, scientifiquement assez étayées. Alors, concernant donc ces manifestations tardives du stress post-traumatique, on peut dégager deux grandes hypothèses explicatives. Pourquoi est-ce que des personnes qui sont des personnes vieillissantes sont confrontées de façon importante, parfois, à des symptômes de stress post-traumatique? D'une part, donc ça rejoint en quelque sorte ce qui a été dit tout à l'heure, sur notamment, par exemple, sur ce qui avait été décrit, les processus attentionnels, il y a des processus cognitifs, des processus intellectuels qui sont altérés du fait de ce stress post-traumatique. Mais inversement, on peut supposer que la baisse des aptitudes intellectuelles qu'on observe au cours du vieillissement et un facteur de risque. Ça, c'est une première hypothèse. Deuxième hypothèse, on est sur quelque chose de beaucoup plus psychosocial, c'est l'ensemble, je dirais, des pertes, des situations d'isolement, la souffrance psychique liée aux conditions du vieillissement. Voilà, on peut supposer que le passage à la retraite, les changements de conditions de vie, et ce genre de choses. Donc ce stress psychosocial serait aussi un facteur de risque. Donc on a deux hypothèses explicatives qui ne sont bien évidemment pas mutuellement exclusives. Et donc on va voir qu'au travers d'un certain nombre de travaux qu'on a menés, on arrive à apporter quelques éléments de réponse. Donc la suite de mon exposé, elle va s'organiser autour donc de trois recherches que nous avons menées. D'une part, je vais commencer par vous montrer donc des modélisations. Donc, l'ensemble de ces travaux concernent donc des enquêtes par questionnaire, ce qui montre, il faut bien avoir conscience qu'il y a des limites à ce type d'évaluation. On touche pas nécessairement réellement à la réalité clinique de ces personnes-là. On est sur des questionnaires avec des choses qui sont auto-rapportées. Voilà, donc en plus avec des descriptions des événements traumatiques qui sont donc très anciennes, plusieurs dizaines d'années auparavant.
C'est quelle Guinée, excusez-moi ?
Guinée-Bissau. En fait, c'est Guinée, c'était Guinée et... Oui, c'est pour les Portugais. En fait, c'était Guinée, Guinée-Bissau et Cap-Vert, mais sachant que la guerre, elle était pas au Cap-Vert. Donc d'abord, des modélisations. On a essayé de modéliser justement les processus psychiques qui interviennent dans ces manifestations de stress post-traumatique à long terme. Donc d'une part, chez des anciens combattants de la guerre d'Algérie, donc d'Afrique française du Nord, et d'autre part, chez des anciens combattants portugais, tout ce qui a été fait par les collègues au Portugal, anciens combattants donc des guerres coloniales portugaises en Angola, en Guinée et au Mozambique. Ça va être la première partie. Deuxième partie, c'est une étude, un suivi que nous avons réalisé donc à 5 ans auprès d'anciens combattants qui étaient déjà âgés, anciens combattants de la guerre d'Algérie. Donc on a évalué à 5 ans d'intervalle et en essayant de déterminer quels sont les facteurs de vulnérabilité propres au vieillissement. Et enfin, la troisième étude, une étude sur une population beaucoup plus restreinte, où là on a comparé donc un échantillon d'anciens combattants de la guerre d'Algérie, un autre échantillon qui sont des anciens combattants d'opérations extérieures. Et de façon à essayer de mieux cerner finalement la part relative de ce qui est lié au processus de vieillissement et à tout ce qui est lié à l'avancée en âge et puis ce qui est lié aux générations. Voilà. Parce que quand on s'intéresse aux personnes âgées, nécessairement les deux phénomènes se télescopent. Il y a ce qui est de l'ordre du processus de vieillissement naturel et puis il y a aussi ce qui est de l'ordre des expériences propres à chacun de ces groupes. Alors, l'enquête, première enquête que nous avons menée en France et au Portugal. Alors en France, on a donc envoyé 1200 questionnaires, on en a 121 qui ont été totalement complétés, on avait beaucoup de réponses partielles. Au Portugal, c'est 250 personnes qui ont été rencontrées plutôt dans le cadre d'activités associatives, et là, 169 questionnaires complétés. Une évaluation globale sur les caractéristiques de ces anciens combattants, sur leurs antécédents, vraiment, est-ce que ces personnes avaient été confrontées à des événements traumatiques avant, notamment au cours de leur enfance. La description auto-rapportée de leurs symptômes de stress post-traumatique, ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, le coping, c'est-à-dire les stratégies d'adaptation, de faire face à ces symptômes de stress post-traumatique, des questions notamment sur le soutien social, des questions qui abordent la détresse psychologique actuelle, la souffrance psychique dans leur quotidien, et enfin un questionnaire assez général sur leur bien-être, sur leur qualité de vie. Donc je vais passer parce que voilà, on va rentrer. Voilà ce qu'on obtient encore sur une modélisation. Statistiquement, on a encore pas mal de questions, mais bon, je ne vais pas entrer dans ces détails-là. Donc concernant, ce qui va être probablement plus intéressant, c'est que ce qu'on a observé, c'est qu'il y a des différences sur les processus qui sont mis en jeu par les anciens combattants d'Algérie et les anciens combattants des guerres coloniales portugaises. Ce qui apparaît chez les anciens d'Algérie, c'est qu'on a ce que nous on appelle le coping actif, c'est-à-dire les stratégies d'adaptation qui sont consécutives finalement aux symptômes de stress post-traumatique, mais qui sont un moyen de s'adapter. Donc c'est un mode de réaction à ces symptômes de stress post-traumatique. ces stratégies de coping. Donc là, les résultats nous ont permis de les classer de trois types. On a ce qu'on appelle le coping actif, ce qui en fait correspond à une gestion active des symptômes. C'est typiquement le fait d'analyser la situation, d'essayer de se confronter de manière relativement rationnelle à ces difficultés, à ces symptômes de stress post-traumatique. Et ce qu'on observe, c'est que ces stratégies qu'on appelle donc adaptatives actives, elles ont un effet tout à fait bénéfique. Elles vont protéger ces anciens combattants d'une humeur dépressive, donc de symptômes de dépression, mais aussi de troubles anxieux, de symptômes anxieux. Au contraire, le coping évitant, donc vraiment toute la mise à distance de tout ce qui va pouvoir rappeler les situations traumatiques, ont des effets. Ce coping évitant, il a des effets délétères, c'est-à-dire qu'il va accroître l'ensemble de la souffrance psychique. Donc à la fois, ça va accroître les symptômes dépressifs, les symptômes anxieux, mais aussi ce qui est de l'ordre de la somatisation, donc, qui concerne donc, les troubles psycho-affectifs, et ce qui est quelque chose qui est très intéressant quand on s'intéresse aux personnes âgées, que souvent les personnes vieillissantes ont plus de difficultés à évoquer une souffrance psychique et vont avoir plus de facilité à exprimer ça par des aspects somatiques, par une souffrance physique. Donc on a bien ce distinguo entre le coping actif, le fait de se confronter de façon relativement, je dirais, rationnelle aux symptômes, qui est relativement protecteur, et puis au contraire, le coping évitant, qui lui est délétère. Et quelque chose qui est tout à fait cohérent avec ce qui a déjà été observé dans d'autres populations d'anciens combattants, notamment à des anciens combattants de la guerre du Vietnam, mais qui étaient plus jeunes. On a regardé aussi ce qu'il en est des activités qui ont été mises en œuvre, c'est-à-dire des modes de réaction comportementaux, qu'est-ce que ces personnes ont fait, justement, à la suite de leur retour d'Algérie, pour essayer de gérer les symptômes de stress post-traumatique. Et ce qui apparaît, ce qui est apparemment paradoxal, c'est que cette activité, eh bien, elle a des effets. Le fait d'avoir une tendance à mettre en œuvre des activités diverses et variées est quelque chose qui est venu accroître l'humeur dépressive. Je vais préciser les choses par la suite. Si on regarde chez les anciens combattants portugais, qui ont environ 10 années de moins les anciens combattants de la guerre d'Algérie, eh bien on a quelque chose qui est assez différent, puisqu'on observe que la stratégie adaptative de coping, qui est la plus importante, celle qui montre vraiment un effet, c'est le soutien social. Donc le fait de vouloir rechercher un soutien de son entourage, ou au contraire, d'apporter un soutien à son entourage. Et c'est quelque chose mais ce soutien social, là aussi, ce qu'on observe de façon relativement paradoxale, eh bien, c'est qu'il va accroître, il a apparu accroître les symptômes dépressifs. Donc ce qui nous laisse entendre, c'est que cette recherche, et en tout cas où le soutien social qui a pu être trouvé par ces anciens combattants, était en tout cas très insatisfaisant dans la mesure où il leur ait pu permettre de les protéger d'une humeur dépressive, de troubles dépressifs. Donc on a une recherche de soutien social, a priori, mais relativement mal satisfaite chez ces anciens combattants. Parallèlement à ça, ce soutien social, ce qu'il montre, c'est qu'il a au contraire un effet positif sur la qualité de vie. Donc on a vraiment quelque chose qui est apparemment paradoxal, puisque le soutien social chez ces anciens combattants portugais, il a un effet délétère sur la dépression d'un côté, et un effet au contraire positif sur la qualité de vie, c'est-à-dire sur le bien-être, mais en fait c'est sur le bien-être qui rend compte des conditions de vie actuelles. Donc ça ne renvoie pas finalement à la même chose. Si on regarde ce qu'il en est des activités, eh bien là, les activités qui ont pu être mises en œuvre par ces anciens combattants portugais ont montré des effets positifs sur le bien-être actuel, sur la qualité de vie. Alors, on a regardé de façon un petit peu plus qualitative, après, quelles sont justement les activités. Et ce qui apparaît, c'est qu'on a des profils différents. Si on regarde donc les activités qui ont été mises en œuvre à la suite donc du retour de ces conflits, c'est les anciens combattants de la guerre d'Algérie. On voit qu'il y a deux activités qui dominent. C'est d'une part l'investissement dans du bénévolat Et on est probablement sur quelque chose qui est de l'ordre, avec lequel on peut faire le parallèle avec les comportements d'évitement. C'est l'investissement dans une activité qui n'a pas de lien avec le conflit. Et à côté de ça, l'engagement dans tout ce qui est les cérémonies d'hommage et de commémoration. Et qui là, par contre, correspond bien à une gestion active des traumatismes. Il y a bien juste une confrontation, une remise en perspective des souvenirs personnels dans un cadre qui est structuré. Et c'est quelque chose qui a montré des effets bénéfiques à long terme. Il y a un travail, à ma connaissance, qui montre que justement la participation à ces cérémonies, à ces commémorations, est quelque chose qui aide à intégrer les souvenirs traumatiques et dans la mesure où ils permettent de favoriser la constitution d'un sentiment de cohésion et de soutien. Voilà. Donc on a vraiment ces deux pôles. Bien, donc on retrouve finalement la dichotomie entre les stratégies d'adaptation active et d'autre part les stratégies d'adaptation évitante dans ces comportements. Concernant les anciens combattants portugais, on a quelque chose, ce qui domine, là c'est en valeur absolue, c'est encore le soutien social. Et donc on voit qu'on a un certain nombre d'attitudes, de demandes d'informations, de partage d'informations, et une volonté, ce qu'on a finalement beaucoup moins chez les anciens combattants d'Algérie. Et donc ces demandes, ces activités sociales, mais qui sont des activités peut-être moins structurées que les activités de bénévolat et les hommages et commémorations, elles sont, on comprend bien, relativement bien valorisées socialement, ce qui pourrait expliquer donc leur relation au bien-être actuel, mais par contre, on peut supposer que là aussi, elles ont été tout à fait insatisfaisantes chez ces anciens combattants portugais. Alors, dans un autre travail, donc par la suite, donc là, c'est des choses qu'on a fait en parallèle, je dirais. Donc on a effectué un suivi longitudinal, donc 104 anciens combattants de la guerre d'Algérie, qu'on a évalué une première fois en 2009, puis en 2014, avec des évaluations qui sont relativement comparables. Donc on s'est intéressé au stress post-traumatique, à leur stratégie d'adaptation. Mais là, on a aussi évalué finalement, de façon là aussi auto-rapportée, leur autonomie, c'est-à-dire leur perception de leur capacité à fonctionner de façon satisfaisante au quotidien. Ce qui apparaît, alors, de manière tout à fait générale, en 5 ans, ces anciens combattants, qui avaient environ, je crois que c'est 74 ans de moyenne d'âge, 70, 75, 75 ans entre les deux, quelque chose comme ça, on n'a pas d'évolution ni de leur stress post-traumatique, ni de leur dépression, ni de leur autonomie. On peut supposer qu'il y a probablement un biais important, c'est que les personnes qui ont pu répondre deux temps de l'évaluation sont aussi ceux qui ont le meilleur état de santé. Voilà, et que les plus fragiles sont aussi ceux qui ont disparu. Si on regarde aussi les types de stress post-traumatique, c'est-à-dire le fait... On a fait des catégories, ceux qui ne souffrent pas de stress post-traumatique, ceux qui souffrent d'un état de stress post-traumatique partiel. Là, il y a différentes définitions qui existent. Nous, on a retenu une définition en fait, qui est centrée sur les réviviscences, le fait de s'ouvrir, d'avoir des souvenirs intrusifs, des cauchemars, des flashbacks, des choses comme ça. Et ceux qui ont un tableau clinique complet de stress post-traumatique, vraiment au sens du DSM, on n'a pas non plus d'évolution. On n'a pas d'évolution de la proportion justement de ces trois types cliniques. Par contre, si de façon beaucoup plus qualitative, on a regardé finalement, ce qui apparaît, c'est qu'il y a des profils qui émergent. Un certain nombre de ces anciens combattants ont rapporté une amélioration de leurs conditions de vie, de leur autonomie, alors qu'au contraire, un certain nombre d'autres anciens combattants, eux, ont rapporté une évolution déficitaire de leur autonomie. Et ce qui apparaît, c'est qu'on a une relation, on voit ce qui apparaît, c'est qu'il y a une relation entre la perte d'autonomie dans le cadre de l'autonomie au quotidien, mais telle qu'elle est perçue par ces anciens combattants, et un accroissement des manifestations de stress post-traumatique. Ça apparaît de façon significative pour une des dimensions de l'autonomie qui concerne le fonctionnement cognitif, typiquement les troubles attentionnels, les troubles amnésiques, dans la vie quotidienne. Donc ça nous laisse entendre qu'il y aurait une relation entre une baisse des aptitudes cognitives, de la capacité à raisonner, à se souvenir, à être attentif dans la vie quotidienne, et une récurrence à plus long terme, donc au cours de ces 5 ans, du stress post-traumatique. À partir de ça, donc, on a souhaité, donc, dans un travail qui est certainement plus modeste, mais qui apporte des éléments d'information qui sont pour moi tout aussi intéressants, voir dans quelle mesure on pouvait distinguer ces effets qui sont à la fois, je vous disais, de l'ordre du vieillissement, mais aussi des aspects générationnels. Aspect générationnel au sens large, ça concerne évidemment les conditions de la participation à ces conflits, mais aussi ça renvoie aux conditions éducatives. Il faut voir que voilà, les anciens combattants de la guerre d'Algérie étaient aussi enfants, adolescents pendant la Seconde Guerre mondiale. On a un certain nombre de ces anciens combattants qui ont vécu des événements particulièrement difficiles au cours de leur enfance et de leur adolescence, du fait de la Seconde Guerre mondiale, ce qui n'était pas le cas chez les anciens combattants portugais. Il y a une limite importante chez les anciens combattants portugais, qui est liée au recrutement. Autant nous, on a eu un recrutement, je vous ai passé le tableau descriptif de notre population, on a un recrutement qui est relativement représentatif, je dirais, de ce qu'ont pu être les soldats, c'est-à-dire une très grande majorité de conscrits, quelques engagés volontaires ou de militaires d'actifs, malgré tout une très grande majorité de conscrits, une très grande majorité de soldats, voilà. Donc on a une représentation relativement, je dirais, juste de ces soldats, aussi en termes de niveaux sociaux éducatifs, de vie maritale, de ce genre de choses, alors que chez les anciens combattants portugais, une limite importante, c'est qu'ils ont été recrutés donc, dans une association, notamment au sein d'une association de mutilés. Et donc, il y a une surreprésentation, mais vraiment une surreprésentation de personnes avec des blessures, qui ont souffert de blessures de guerre importantes avec des mutilations, ce qui était nettement moins important dans notre échantillon. Donc, probablement que les différences qu'on a observées aussi entre Français et Portugais sont liées aussi à cette importance particulière des blessures physiques, des mutilations, mais bien évidemment au contexte global lié à la vie de ces anciens combattants. C'est bien que le retour des anciens combattants de la guerre d'Algérie n'a pas été le même. Pour les anciens combattants du Portugal, la fin de la guerre, c'est la révolution des œillères. Donc on voit bien que les militaires ont eu un rôle, en tout cas une représentation nettement plus positive dans la société que ce qui est le cas pour les anciens combattants de la guerre d'Algérie. Voilà. Donc c'est tous ces aspects-là qui sont les aspects générationnels, ce que nous, dans les aspects théoriques, on va appeler les effets de cohorte. Donc distinguer les effets de l'âge et les effets de cohorte. Donc les effets proc à chaque génération. On a souhaité donc faire le parallèle dans les conceptions sur le vieillissement. Il y a une hypothèse qui est tout à fait dominante pour expliquer l'évolution des processus, notamment intellectuels, liés au vieillissement, qui est une hypothèse qui est dite dysexécutive, un terme un peu barbare d'apparence, mais qui nous dit quelque chose d'assez simple, c'est que les fonctions intellectuelles qui sont les premières à être altérées concernent les aptitudes de supervision, de contrôle. C'est vraiment toutes les aptitudes intellectuelles qui vont permettre de réguler l'utilisation des autres aptitudes intellectuelles. Donc typiquement, réguler l'utilisation de la mémoire, du langage, des gestes, etc., etc. Donc vraiment toutes les fonctions supérieures de l'homme. Et le vieillissement donc serait particulièrement sensible à une atteinte de ces fonctions exécutives. Donc dans cette perspective, donc, on a comparé donc, deux échantillons, un groupe d'anciens de la guerre d'Algérie, un groupe d'anciens combattants des opérations extérieures. Il manque aussi. Ce qui apparaît donc, au terme des résultats, c'est qu'on a bien une relation entre ce qu'on appelle donc nous des troubles dysexécutifs, donc ces difficultés à utiliser ces fonctions intellectuelles supérieures, et le stress post-traumatique, comme ça, mais stress post-traumatique, là aussi, à long terme. Et une relation donc, qui est relativement comparable, je dirais, à la fois chez les anciens combattants de la guerre d'Algérie et chez les OPEX. Malgré tout, si on regarde de façon un peu plus qualitative, si on distingue ces processus exécutif, ce qui apparaît, c'est qu'il y a une aptitude qui est particulièrement altérée, ce qu'on appelle les troubles du fonctionnement inhibiteur, c'est-à-dire la capacité à résister à tout ce qui est interférent, tout ce qui va venir interférer avec le fonctionnement quotidien. Donc c'est une capacité justement à réguler, à mettre de la distance par rapport à des processus automatiques. Et donc on peut supposer que cette capacité à réguler, à mettre de la distance, à inhiber les processus automatiques, on la retrouve aussi, elle a une importance pour arriver à réguler les symptômes de stress post-traumatique et notamment la récurrence des souvenirs traumatiques qui peuvent donc survenir de façon très brutale. Donc on retrouve bien, cette même organisation à la fois chez les anciens combattants d'Algérie et chez les OPEX. Mais on a souhaité, dans nos analyses, on a contrôlé les effets de l'âge, de façon à voir justement plus particulièrement quels sont les effets générationnels, quels sont les effets de cohorte. En contrôlant les effets de l'âge, eh bien ce qui apparaît, c'est que là, ce sont à nouveau, c'est les processus inhibiteurs qui étaient les plus importants dans le schéma précédent, dans le graphique précédent, ce sont processus inhibiteurs qui restent comme étant les seuls processus qui vont permettre d'expliquer finalement ce qu'on appelle donc, nous, l'interaction entre les effets générationnels, le fait d'avoir participé à la guerre d'Algérie ou à des opérations extérieures, et les effets de l'âge. Donc on a ce processus inhibiteur, en fait, serait particulièrement affecté chez les anciens combattants de la guerre d'Algérie. Donc quelque chose qui va se surajouter, donc cet effet générationnel chez les anciens combattants d'Algérie, probablement se surajoute aux effets de l'âge, qui sont des effets plus généraux sur le fonctionnement exécutif. On obtient quelque chose on a des résultats qui ne sont pas significatifs, mais on a une tendance quand même, tout à fait notable, et en contrôlant les effets de la dépression, vraiment cette comorbidité importante, on voit que c'est l'inhibition qui est le processus intellectuel qui apparaît de façon particulièrement importante. Donc, en conclusion, ce que c'est nos travaux laissent entendre, c'est que il existe des conséquences négatives à long terme du stress post-traumatique en interrelation avec le fonctionnement cognitif, la capacité à vivre au quotidien. Dans ces relations, ce que ça nous laisse entendre, c'est qu'il y a une relation donc, particulière avec la baisse des aptitudes cognitives qu'on observe au cours du vieillissement, de façon naturelle, et que cette baisse, cet effet est particulièrement important au niveau des troubles du fonctionnement inhibiteur. Parallèlement à ça, on voit qu'il y a une interrelation, ça nous laisse entendre qu'il y a bien une interrelation entre le processus de vieillissement et le fait d'avoir vécu des situations traumatiques de guerre et leurs manifestations tardives. Il y a quand même un bémol que je dois ajouter à ça, c'est que je renvoie notamment à des travaux très intéressants d'un professeur de psychologie de l'Université Columbia à New York, Georges Bonanno, qui a très bien montré que la très grande majorité des combattants ont une bonne récupération finalement de leurs aptitudes psychiques. Donc il y a une baisse des symptômes de stress post-traumatique qui intervient chez la très grande majorité des individus. Ce qu'on observe aussi chez nous, c'est dans les échantillons qu'on a pu rencontrer, une grande majorité des anciens combattants de la guerre d'Algérie qui ont répondu à nos enquêtes sont des personnes qui vivent bien et qui ont relativement peu de symptômes. Mais malgré tout, donc chez ceux qui ont une souffrance psychique, il y a une relation qui apparaît, particulière à la question du vieillissement. Là-dedans, donc, ce qu'on voit, c'est que la question du soutien social est quelque chose qui apparaît comme étant, ça a été largement montré, et on comprend bien qu'il y a quelque chose de déterminant. Mais la recherche de soutien social en elle-même n'est pas suffisante, ce qui apparaît bien avec l'échantillon portugais. C'est que cette recherche de soutien social, pour qu'elle ait des effets bénéfiques à plus long terme, eh bien, il faut qu'elle soit satisfaisante. le fait de rechercher un soutien particulier, de se confronter peut-être finalement à un manque de disponibilité de son entourage, etc., etc., quelque chose qui va peut-être, dans certains cas, en tout cas dans cet échantillon d'anciens combattants portugais, accroître la souffrance psychique actuelle. Concernant les activités, on voit qu'il y a aussi le fait de s'engager dans des activités en soi, eh bien, peut avoir des connotations différentes. C'est à la fois le traduire des comportements d'évitement, vraiment, et de s'engager dans des activités pour, quelque part, ne plus penser, ne plus avoir d'éléments qui vont rappeler les situations traumatiques. Ce sont des choses qui vont entretenir, quelque part, la souffrance psychique. Alors que, au contraire, la participation, une gestion active au travers des cérémonies, des commémorations, donc d'un engagement social dans un groupe, qui est un groupe très restreint, qui est celui des associations d'anciens combattants, vraiment souvent des très petits groupes, mais avec des valeurs partagées fortes, et quelque chose qui, très probablement, a des effets bénéfiques à très long terme.
Merci à vous d'avoir essayé et réussi, j'ai l'impression, à débrouiller, enfin, à propos de questions infiniment complexes, d'essayer de repérer malgré tout des facteurs qui sont susceptibles de peser dans un sens ou dans l'autre. M'a rappelé ma jeunesse sur d'autres sujets, enfin bon... Alors, qui veut dire quelque chose, là ?
J'avais une question, là. J'étais frappé par, chez les anciens combattants d'Afrique du Nord, le nombre de ceux qui avaient des activités bénévoles. Et vous avez évoqué à la fin que ce type d'activité pourrait avoir des effets. Mais est-ce qu'on a mesuré ça quelque part ? En fait, qu'un traumatisé, le fait d'aller s'occuper des autres pouvait être un facteur bénéfique ou thérapeutique.
Je vais remettre mon schéma, ça va être plus clair. Mon graphique. Non, c'est après. On reste sur des. On reste sur des. En fait, ce qui apparaît, c'est qu'il faut bien avoir conscience qu'on est sur des questionnaires. Donc on est vraiment sur des choses auto-rapportées. Malgré tout, moi j'ai tendance à considérer que ces personnes n'ont pas de raison de nous raconter des choses qui sont à côté de la plaque. La question c'était donc est-ce que vous pouvez nous indiquer si vous êtes investi dans des activités à la suite des événements, donc après le retour du conflit. Si on regarde, il y a quelque chose qui est tout à fait paradoxal, c'est qu'il y avait une question sur l'adhésion à un groupe d'anciens combattants. Dans notre échantillon d'anciens de la guerre d'Algérie, on en a donc 19 qui nous ont dit avoir adhéré à une association d'anciens combattants. Il se trouve que nous, on les a sollicités au travers d'une association d'anciens combattants. Donc, vous voyez qu'on est sur une perception, finalement, quelque part, ça renvoie à la perception de l'importance de cette chose-là, je pense, plus que la réalité de l'engagement. Parce que là, normalement, on aurait dû avoir la quasi-totalité, logiquement. Malgré tout, voyez, bénévolat, activité de loisirs, on est sur des activités qui sont des activités éloignées et qui correspondent à probablement à un investissement sociétal global. C'est le fait de s'engager dans des activités socialement valorisées, mais qui sont des activités telles que la recherche, le fait de trouver un emploi, de construire une famille, aussi des choses telles que construire une famille, des choses comme ça. Donc on est vraiment, en tout cas, c'est... Si votre question c'est est-ce qu'il y a eu des travaux particuliers sur ce type d'engagement, à ma connaissance, moi je n'en connais pas. Mais par contre, il y a des travaux justement sur les comportements d'évitement. Là, on a une littérature qui est tout à fait importante. Voilà.
Si c'est réellement un comportement d'évitement, ça peut l'être, mais ça peut être aussi une autre démarche. Justement, de se dire, Voilà, il faut que je prenne les affaires en main, il faut que je fasse autre chose.
Oui, oui, et puis j'ai besoin, c'est des jeunes adultes qui avaient besoin de construire leur vie, etc., hein, bien sûr. Oui.
Parfois, il y a aussi des stratégies d'affrontement qui peuvent être pathogènes en même temps. Enfin, c'est complexe, hein, mais moi j'ai une question sur la courbe, là. Ça, c'est la population tout venant, comprenant des patients, enfin des personnes présentant des états de stress post-traumatique, complets ou incomplets, et les autres.
Oui.
Est-ce que vous avez superposé les courbes de ceux qui présentaient des états de stress post-traumatique complets et incomplets avec la pathologie, avec la population indemne, pour voir si leur fonctionnement sociétal, par rapport aux associations d'anciens combattants, les activités de loisirs étaient différentes? C'est intéressant, c'est de comparer ces deux. Non, mais
il se trouve que sur les données portugaises, on les a récupérées il y a relativement peu de temps. Donc, je n'ai pas ce regard-là. Par contre, avec les anciens combattants de la guerre d'Algérie, ce qui apparaissait, c'est qu'il y a une seule relation, en fait, qui était vraiment, si on y regardait de façon plus précise, c'était une relation forte entre justement la participation aux hommages et aux commémorations et le stress post-traumatique.
Et dans quel sens?
Dans le sens d'un effet bénéfique.
D'accord. Ouais.
Mais c'est vraiment la seule chose. Ouais.
Est-ce que dans vos évaluations, vous tenez compte du type de guerre qu'ont fait les soldats? Pour une même guerre, la guerre d'Algérie par exemple, tous les soldats n'ont pas fait le même combat, n'ont pas eu les mêmes activités, ne sont pas au même endroit, sont pas dans le même type d'unité. Alors, est-ce que ça apparaît? Est-ce que ça a une influence?
Alors, dans la nosographie, les classifications médicales, premier critère de stress post-traumatique, c'est d'avoir été confronté à un événement traumatique. Donc, dans les questions qui étaient posées, c'est déjà de nous rapporter. On leur a demandé de nous rapporter un événement. Et effectivement, donc, les personnes qui rapportent très longtemps après avoir vécu un événement traumatique, qui vont nous dire, avoir participation à un combat, mais ça peut être aussi des choses tout à fait variées, un accident, on a un pilote par exemple qui a eu un accident d'avion, des choses comme ça. Donc il y a une relation directe entre l'évocation à très long terme d'un événement comme ça potentiellement traumatisant et la récurrence du stress post-traumatique. On les interrogeait aussi sur, on leur demandait dans quelle mesure est-ce que vous pouvez évaluer l'intensité. Est-ce que vous pouvez nous dire si cet événement que vous nous avez rapporté, ou non d'ailleurs, pour certains, il y en a dans notre échantillon, il y en a qui ne rapportaient rien, tout à fait. Et dans ce cas-là, il n'y avait pas de symptômes, c'était tout à fait cohérent. Mais on leur demandait d'évaluer l'intensité. Est-ce que pour vous, cet événement était quelque chose de peu stressant, d'assez stressant, ou alors de particulièrement stressant? Et il y a une relation directe, bien évidemment, entre leur évaluation de l'intensité de cet événement et la symptomatologie à long terme.
Pour bien comprendre les chiffres, les personnes qui avaient présenté un état de stress post-traumatique en guérie ou en rémission, on va dire, depuis plusieurs années, elles sont mises dans quelle population dans l'étude?
Alors,
Puisqu'il y en a beaucoup, vous l'avez rappelé qu'effectivement, il y avait en gros, je ne sais pas, il y a 60-70%, moi je vois dans les patients qu'on suit au long cours qui sont en rémission depuis plusieurs années d'un état de stress post-traumatique, ceux-là, ils étaient considérés comme indemnes, incomplets.
Alors, c'est des questions qu'on doit vraiment approfondir, parce que on les interrogeait sur leur stress post-traumatique actuel. Donc, dans quelle mesure est-ce que, au moment de l'évacuation, donc de façon très contemporaine, eux ont cette souffrance, ont ces symptômes. Mais on leur posait aussi la question, est-ce que vous avez eu ce type de symptômes à la suite de votre participation au conflit? Donc, est-ce que ces symptômes ont duré? Est-ce que, donc il y a une évaluation, pas très fine, mais une évaluation aussi du fait qu'ils aient...
Mais vous les avez catégorisés où, du coup?
Alors, là, je ne les ai pas.
Non, mais c'est pour...
Mais je suis très, très, très embêté avec ça. Parce que là, par contre, on a un certain nombre de personnes qui ont répondu. Enfin, il y avait des choses qui étaient incohérentes, en fait, par rapport à ça, à leur vision rétrospective de leur souffrance de stress post-traumatique, dans, à la suite du conflit. Voilà. Donc, c'est-à-dire que cette perspective longitudinale, moi, je vais être très prudent parce que les interroger actuellement, je pense qu'on peut être relativement confiant. Les interroger sur ce qu'ils vivent actuellement, mais aussi sur ce qu'ils ont vécu en revenant d'Algérie, ça implique vraiment de mobiliser des souvenirs anciens. Donc, on sait qu'il y a eu des remaniements. Donc, honnêtement, je suis pas capable de vous répondre. Voilà. Même si on a posé la question, qu'il va falloir qu'on essaye de débrouiller ces choses-là. Probablement qu'il y a des profils. Hein, les travaux de Bonanno montrent qu'il y a des individus. La plupart des individus, finalement, ont une réaction de stress aiguë et puis après, les choses reviennent à la normale. Un certain nombre de personnes qui développent réellement un stress post-traumatique, notamment les anciens combattants, et après qui ont des capacités de résilience qui vont se mettre en œuvre. Mais malgré tout, on en a quelques-uns qui ont un stress post-traumatique chronique, parfois à très très long terme, sur plusieurs dizaines d'années. Et puis on en a aussi quelques pourcents, c'est pas beaucoup, pour lesquels le stress post-traumatique n'était pas manifeste. Donc des personnes qui... Il faut qu'on le regarde, mais vraiment là, je n'ai pas ce regard aujourd'hui, qui disent ne pas avoir eu ce type de symptômes et qui, par contre, de façon contemporaine, le rapportent. Mais j'ai peur que ce soit trop marginal pour qu'on voit des choses significatives.
Une dernière question, mais peut-être que je vous ai mal suivi. Il y a évitement et inhibition. Alors, évitement, c'est plutôt pas bien. Négatif, alors qu'inhibition, c'est plutôt positif. Comment faites-vous une différence entre évitement et inhibition ?
Alors, il y a des questions théoriques importantes. La notion d'inhibition, en plus, c'est vraiment un concept qui est, je dirais, vraiment dans tout le champ de... Actuellement, en psychologie, mais même aussi dans le champ des neurosciences, c'est quelque chose qui est assez populaire. Il n'y a pas de consensus sur ce qui est réellement l'inhibition. Et donc, il y a des utilisations différentes. Nous, l'acceptation, c'est-à-dire qu'on a utilisé un questionnaire qui est un questionnaire d'utilisation, d'évaluation de l'autonomie, qui est un questionnaire qui est destiné à des personnes qui ont des troubles neurologiques. Ça avait été conçu comme ça. Et l'inhibition, elle correspond à la capacité à inhiber, c'est-à-dire un processus automatique, une source d'interférence. Typiquement, on voit par exemple... Si on est dans un environnement bruyant, si on a besoin de se concentrer sur quelque chose, il faut inhiber, faire la part des choses. Il faut essayer de se couper des bruits environnants pour se concentrer. L'inhibition, c'est aussi la capacité à utiliser des règles différentes. C'est-à-dire se dire, voilà, il y a un moment, il y a ce que vous disiez, par exemple, il y a probablement des modes d'adaptation, des stratégies de coping qui ont une utilité à un moment. Par exemple, utiliser ces émotions, ça peut être utile, souvent au début du stress. Mais par contre, si ça s'inscrit dans le temps, plus tard, il faut être capable de se dire, non, cette stratégie, elle n'est plus efficace, et je vais essayer d'en utiliser une autre.
Juste pour rebondir, on a une présentation clinique dans le service, et un des patients avec qui j'avais un entretien devant mon équipe évoquait la mise en action de son filtre.
C'est ça,
voilà, c'est vraiment... C'est quelque chose comme ça, c'est quelque chose qui vient comme ça, réguler en le tempérant, ce qui pourrait être, ce qui est potentiellement stressant, qui viendrait de l'extérieur.
Donc c'est vraiment, il y a un effet de filtre, mais qui peut être très automatique, on voit sur les choses attentionnelles, mais ça peut être aussi quelque chose de très élaboré, c'est la capacité à choisir des stratégies, des modes d'adaptation et à en changer. C'est ça qui est important, c'est la capacité à s'adapter, à changer de stratégie. L'inhibition, elle est là-dedans. L'évitement, c'est vraiment, c'est je ne veux pas penser à cette situation difficile. Donc, je ne veux pas participer typiquement à une réunion au cours de laquelle je risque d'avoir des souvenirs qui reviennent. Des choses comme ça.